One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéenne.
Et je suis Julie Deliquet.
Et je suis Clara Edouin.
Et je suis Jader Bulot.
Et tous trois qui avançaient en compagnie ou qui rapatriaient avec éclat des joyaux dans la maison de Molière, vous êtes trois mousquetaires.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture, ça sert à bouger son corps. Voilà quelque temps qu'un art vivant et remuant, la danse, s'invite au musée. L'expérience muséale est généralement associée à la contemplation d'une œuvre figée, voire d'une vidéo derrière le rideau. Du coup, elle ne s'y prête guère, a priori. Pourtant, ils sont plusieurs à relever le défi aujourd'hui. C'est la petite galerie du musée du Louvre qui inaugure une expo sur le corps en mouvement, confiée au chorégraphe Benjamin Millepied. La petite galerie et sa mission d'éducation artistique dépassent pour l'occasion les bornes chronologiques de la collection du Louvre pour aller de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Se demander comment les artistes ont représenté le mouvement. L'occasion de voir des Degas et des Rodin, bien sûr, mais aussi la fameuse danse serpentine du papillon électrique Loïc Fuller, capturée par les Frères Lumière. La danse contemporaine, son histoire et les lignes qui la traversent en passant par 8 versions du Sacre du Printemps et une plongée dans la rumba congolaise, c'est l'approche de l'exposition Corps Rebelle, cette fois au Musée des Confluences à Lyon. La danse au musée donc, mais aussi un musée des danses au pluriel. C'est ainsi que le chorégraphe Boris Charmatz a décidé de prendre le problème et de dépasser le hiatus figé de l'exercice avec son installation 20 danseurs pour le XXe siècle qui envahit l'année dernière les espaces publics de l'Opéra Garnier. Revivre par les danseurs les plus beaux gestes chorégraphiques de Balanchine à Pina Bausch, de Chaplin à Gene Kelly.
Come on with the rain, have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain.
Après ses 20 danseurs pour le XXe siècle, Charmatz continue de mener la danse au musée et proposera au Louvre pendant la FIAC son nouveau spectacle « Danse de nuit ». On attend toujours le voguing de la Joconde, mais ça ne saurait tarder. En attendant, j'ai une question pour vous, Jader Bulot et Clara Edouin. Cette idée d'aller faire du théâtre qui redéfinit un peu les lieux de patrimoine, qui les bouscule, c'est pas loin de votre idée des Trois Mousquetaires, la série, lorsque vous allez jouer au musée Carnavalet ou à la mairie du 4e à Paris, ou encore à la mairie de Briard-le-Canal, dans le Loiret.
Oui, c'est vrai que ce serait un de nos rêves de pouvoir le jouer dans le Louvre, qui est un des lieux emblématiques du roman, puisque le roman se passe sous le règne de Louis XIII.
Et cette idée de bousculer le patrimoine, justement les lieux de patrimoine habituellement, qui sont les lieux finalement de contemplation et de codification dans le rapport qu'on a habituellement?
Bah ça, c'était d'abord l'idée de sortir de la boîte noire du théâtre et donc de faire du théâtre ailleurs, autrement, en bousculant un peu les manières qu'on a de bouger dans ces espaces qui sont souvent des espaces un peu sacrés, sacralisés par l'institution et dans lesquels on ne se meut pas forcément facilement. Et on arrive, nous, avec nos mousquetaires et on essaye de bouleverser un peu les codes habituels.
Julie Deliquet, vous concernant, avec votre Vania d'après Oncle Vania de Tchekhov au Vieux Colombier, c'est un peu facile peut-être de vous lancer sur cette piste, de bousculer le patrimoine, mais est-ce que c'est du patrimoine pour vous, Oncle Vania ?
Non, c'est plutôt un terrain de jeu en fait. J'avais envie de partir d'un texte pour nous l'approprier. Je dis nous parce que du coup c'était un travail à faire directement avec les 7 acteurs que j'avais choisis de la Comédie Française. Mais effectivement c'était travailler sur un texte étranger à nous, qui était Tchekhov, avec des acteurs étrangers à moi, qui étaient les acteurs de la Comédie Française. Et en faire une, pas proprement parler une création collective, mais en tout cas une adaptation, une appropriation collective. C'était le défi de ce Vania à la Comédie Française.
Ping-pong révise ses classiques ce soir et fait vibrer le blockbuster littéraire Les Trois Mousquetaires de Dumas comme le tube théâtral Oncle Vania de Tchekhov.
Mathilde Serrel, Martin Kénéenne, Ping-pong.
Bon, bah raconte-moi quelque chose, Vania. Tu es devenue paresseux, je ne fais que râler comme un vieux gâteux. Ma vieille perruche de mère continue de radoter sur l'émancipation des femmes.
Non.
D'un œil, elle regarde la tombe, de l'autre, elle cherche dans ses livres savants l'aube d'une vie nouvelle.
Et le professeur, il...
Le professeur, c'est toujours pareil. Du matin jusqu'à très tard, le soir, la nuit, il écrit. L'esprit tendu, le front plissé, écrivons, écrivons des poèmes. Et de louanges ne recevez ni pour vos écrits, ni pour vous-même. Pour papier, il ferait mieux d'écrire son autobiographie. Un professeur à la retraite, tu saisis ? Une vieille croûte, une morue s'aborde.
Ah, oh, mais...
Non, mais attends.
Il est malade ou...
Il a des migraines.
Ouais.
Il a le foie gonflé par la jalousie et par l'envie.
Alors, les migraines,
non, mais attends, c'est du bon rue là.
Qu'est-ce que tu
dans la maison de sa première femme, ma sœur, parce que vivre en ville n'est pas dans ses moyens. Hein. Un homme qui écrit depuis 25 ans sur l'art sans strictement rien comprendre à l'art. Ça veut dire que pendant 25 ans, il a occupé une place qui n'était pas la sienne. Et t'as vu comme il se pavane, comme un milieu.
Mes amis, je vais finir un article dans votre camp.
Il est jaloux.
Ouais, je suis jaloux.
Vania, oncle Vania, est jaloux du professeur et amoureux de sa femme, venu prendre possession de la maison familiale. Et tout se passe autour d'une table, Julie Deliquet, cette table qu'on trouvait déjà dans votre mise en scène de la noce de Brecht. Et cette maison qu'on trouvait aussi dans vos derniers remords, avant l'oubli, d'après Lagarce. Un repas dans une maison qu'on trouvait également dans Nous sommes seuls maintenant.
Voilà,
et aujourd'hui,
nouvelle.
Justement, on est dans la datcha d'Ivan, oncle Vania. Parlez-nous, on va peut-être partir de là, de votre fascination pour ces maisons et ces repas de famille qui semblent vous hanter. J'ai trouvé chez Baudelaire cette expression de des hantises préférées. C'est ça pour vous ?
Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je redémarre un spectacle, je me rends compte que j'ai le même désir initial, qui est de réunir des acteurs autour d'une table. Mais d'abord, c'est des acteurs avant d'être des personnages et avant d'être une maison et de faire voilà que le théâtre se crée comme ça, de manière aussi simple qu'autour d'une table de travail. Je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête là et du coup, avec la Comédie Française, je me suis dit, je peux le refaire là. Du coup, en plus avec Vania, ça se passe autour d'une table, quelle que soit la mise en scène. Donc quelque part, ça m'autorisait à le refaire encore une fois et à voir comment ce geste qui avait été le nôtre au sein de ma compagnie pouvait aussi devenir un autre geste avec des gens qui n'avaient peut-être pas l'habitude de faire des impros de 2 heures en mangeant du poulet. Ils ont beaucoup grossi, hein, les acteurs, pendant les répétitions. On a gardé peu de choses finalement du repas, mais on a fait énormément de repas. C'était une manière ludique de leur dire, au lieu de rentrer en répétition et de faire des lectures autour d'une table, on va manger. On va partir du café qu'on prenait juste pour discuter de ce qu'on allait faire de la réunion de compagnie, enfin de la réunion dramaturgique avant de commencer les répétitions. Et du coup, cette cafetière est restée dans le spectacle. En fait, il y a des traces de ce qu'était même la genèse des répétitions qui finalement s'est infiltrée à l'intérieur de la pièce de Tchekhov. Donc, on n'est pas parti de cette maison, on est parti de cette salle de répétition. Je me suis dit, il y a une table, un buffet. Au début, il y avait beaucoup d'affaires. Il ne reste que ce qui joue, puis il y a beaucoup de cases. Du coup, il y a beaucoup de remplacements. Mais c'est vrai que c'est l'idée du huis clos, d'enfermer des humanités, plus qu'une famille d'ailleurs, je crois. Parce que là, c'est au-delà d'une histoire de famille, c'est une invasion, c'est deux étrangers qui finalement rentrent à l'intérieur d'une communauté et la bousculent. Alors on parle d'ennui, mais on peut tuer l'ennui aussi. Moi, ça a été toute ma question de dire, est-ce qu'on traite l'ennui par l'ennui ou est-ce que finalement des gens qui font beaucoup de choses trahissent pas un ennui monstrueux et quand on part et qu'on laisse tout ce bordel, parce que du coup c'est quand même une invasion qui est assez dévastatrice, qu'est-ce qui reste ? Alors là, on parle même plus d'ennui, on parle de mélancolie ou de fin de vie, je sais pas. C'est là la puissance de Tchekhov, parce que c'est vrai qu'il part par un... Il passe par un texte et par un art qui peut traiter du quotidien, même si pour moi on traite plus du réel ou d'humanité. Et du coup, comment ces gens qui n'ont pas à vivre ensemble vivent ensemble ? Du coup, la table est assez, en termes de réunion, c'est un raccourci et un terrain d'expérimentation assez infini.
On retrouve là l'expérience de votre collectif in vitro aussi, hein, lorsque vous avez vu comme ça votre troupe pendant 6 heures vivre, évoluer, et que finalement cette idée-là est arrivée de deux théâtres. Mais pour revenir à Tchekhov, vous arrivez donc à la Comédie Française, Martin l'a dit, vous avez monté du Brecht, du Lagarce. Pourquoi vous choisissez Tchekhov, cet oncle Vania, sachant que vous aimez... amener des choses du monde qui vous entoure. Moi, j'ai pensé qu'il y avait énormément de vacances en famille et de repas de Noël, voire de festaines qui s'étaient infiltrés dans votre lecture de Tchekhov. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
C'est vrai qu'après, j'ai eu 2 expériences de texte. Donc, comme vous le dites, Lagarce et Brecht, et après 2 écritures de plateau. Du coup, c'était important pour moi de revenir au texte. J'en avais le désir et je ne savais pas d'ailleurs si j'en avais le désir au sein de mon propre collectif après l'expérience assez incroyable de l'écriture de plateau. Mais j'en avais besoin comme un temps zéro, en fait, comme je l'avais fait avec le Lagarce. Et je crois qu'à l'époque du Lagarce, j'aurais pu choisir Vania. Mais du coup, j'ai choisi le Lagarce. Au sein, je sais, du collectif, pour différentes raisons, je ne pouvais pas monter Oncle Vania, puis je n'avais pas forcément la distribution. Du coup, l'évidence de Vania, quand Eric Ruff de la Comédie Française m'a fait la proposition, c'était vraiment cette pièce ou rien. J'avais vraiment envie de celle-ci. Et j'avais le sentiment qu'en écriture de plateau, on avait beaucoup questionné l'écriture et que Tchekhov était revenu très fort dans nos discussions. L'idée aussi de la traduction, qui dit traduction, dit adaptation. Donc ça me plaisait qu'on puisse travailler une langue qui soit pas aussi brute que celle du « la garce, on peut pas changer une virgule hein. ». Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là, quand même, d'autres sont passés après Tchekhov pour le rendre français. Donc il y avait cette idée d'adaptation tranquille. Hein, je signe pas, c'est Vania d'après Oncle Vania, donc on est quand même pas loin de lui. Et puis du coup, c'est, de toute façon, cette réunion autour d'une table était écrite, et j'avais la sensation aussi qu'on parlait beaucoup de personnages. Tous les personnages de Vania me fascinaient, peut-être moins celui de la nourrice, c'est pour ça que j'ai choisi de l'enlever. Et puis tout d'un coup, par rapport à la société d'aujourd'hui, j'avais l'impression que je pouvais faire vraiment une mise en parallèle avec ces gens qui ont 30 ou 40 ans, qui se sentent déjà vieux, qui sentent qu'ils vivent dans un monde qui s'éteint. Une société qui est en crise. Et du coup, j'arrivais quand même à faire des parallèles, alors qui étaient plus idéologiques, hein, avec la société d'aujourd'hui, moins sur le rôle de la nourrice, que du coup, nourrice dans une maison, aujourd'hui, ça parle à personne. Et du coup, j'ai trouvé quand même, mais de manière très instinctive, beaucoup de liens intimes à travers cet oncle Vania, même par rapport au personnage du professeur et à la génération précédente, avec un personnage...
Les 68 ans.
Oui, quand même, qui dit que c'est le seul à jouir de la vie, et du coup là, sa fille qui est jeune se sent déjà très vieille en fait, et comment lui est un jouisseur et est un penseur, un écrivain, et comment elle, dans une vie beaucoup plus concrète, finalement a du mal à s'exprimer. Bon, puis après c'est assez tragique avec tout ce qui se passe sur les intrigues amoureuses. On va dire qu'au début j'ai choisi cette pièce par la beauté du collectif.
Jade Herbulot, Clara Edouin, vous avec les Trois Mousquetaires, la série, c'est un spectacle à multiples facettes qu'on va essayer d'explorer et de découvrir. On va se mirer dans ce miroir ce soir. Mais puisque Julie Deliquet parlait de la modernisation, des échos, des résonances qu'il y a entre son Vania et le Bel aujourd'hui, j'aimerais peut-être qu'on commence là-dessus, sur vos Trois Mousquetaires qui sont un peu à la manière persane. Vous posez la question, comment peut-on être mousquetaire en 2016?
Oui, si on peut parler un petit peu de la jeunesse du projet. Enfin, on se disait que c'était amusant d'être invité avec Julie aujourd'hui, Julie Deliquet, parce que on a fait la
même
école.
C'est une comédie ping-pong. Hein.
Ouais. Le studio d'Anières.
Le studio d'Anières. Et c'est vrai que l'entreprise In Vitro, enfin, on en a entendu parler quand nous, on était en première année au studio d'Anières. Et c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir à ce projet avec Clara, il y avait la volonté de fonder un collectif d'acteurs qui puisse développer un travail sur le temps long.
Et 49-701, on ne sait pas si c'est une date, justement, un aboutissement de votre
calendrier.
C'était
le code d'entrée
du studio de répète.
C'est ça. Il a été changé depuis.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On les a obligés à changer le code. Ce serait sympa pour les gens de l'école, quand même.
Mais c'est vrai qu'on a commencé un travail assez familial, et cette école est une petite famille et elle a le don de transmettre ça. Et que nous aussi, effectivement, on a été influencés par les collectifs qui fourmillaient à l'époque où on était élèves, dont le collectif In Vitro, mais aussi, effectivement, les D'ores et Déjà. Ce genre d'entreprise théâtrale nous a forcément un peu formés. Et on a commencé donc le projet en 2012, mais aussi sous l'influence d'autres modèles comme le théâtre permanent de Gwenaëlle Morin, donc qui a aussi à un moment donné à Aubervilliers décidé de travailler avec les mêmes acteurs sur le temps.
Laboratoire.
Voilà, et l'idée du laboratoire ou de l'œuvre, disons, en processus, enfin l'œuvre qui ne serait pas achevée au bout de quelques représentations, mais qui allait demander d'autres rendez-vous, d'autres représentations, et donc du coup aussi, c'est une œuvre qui demande de se faire accompagner par les spectateurs, quelque part les gens viennent voir la saison 1, puis reviennent voir la 2, puis vont voir la 3, donc on crée comme ça un compagnonnage avec une communauté de fidèles qui nous suivent maintenant depuis 4 ans et qui attendent avec impatience les créations des saisons.
C'est ouvert aux infidèles aussi, rappelons-le.
Oui, ça nous est arrivé avec Martin de ne pas avoir vu depuis le début.
D'être initié.
Et pour revenir justement à l'idée de collectif, Julie Deliquet, et justement j'aimerais même que tout le monde autour de la table réponde, comment ça se fait que dans votre génération, voilà, ça devient important d'être dans un geste collectif plutôt qu'une carrière solo?
Ben, je crois que Clara l'a très bien dit. Déjà, ça a été on a été formés comme ça. C'est-à-dire que c'est assez incroyable dans les écoles d'être en groupe, de faire du théâtre en groupe. C'est très différent quand on se retrouve seul face à ce métier. Moi, je l'ai vécu parce qu'on n'a pas fait le collectif juste à la sortie des écoles, mais un petit peu après ces fameuses années de sortie où chacun est face à sa propre carrière. Chacun, en tant qu'acteur, est dépendant d'un metteur en scène qui l'appelle. Nous, on était dans une génération aussi où les metteurs en scène étaient plus âgés que nous et paraissait un théâtre qui paraissait moins accessible, qui était très impressionnant, qu'on aimait en tant que spectateur, mais qui paraissait pas accessible tout de suite. Et puis tout d'un coup, il y avait eu cette idée de peut-être faire un théâtre plus pauvre, mais ensemble, où on défendait la place de l'acteur, en redéfinissant un petit peu la place de l'acteur, où il était plus considéré uniquement comme interprète, mais aussi comme créateur, et qu'on pouvait unir nos forces et finalement prolonger ce geste qui nous avait tant plu dans les écoles, en se rendant compte, et on l'a vécu à Agnières, on en est la preuve aujourd'hui, que ces équipes peuvent cohabiter dans un paysage théâtral français, ce qui aussi était nouveau. Le théâtre de Vanves a beaucoup défendu ça. Il y a eu beaucoup de collectifs où les acteurs passaient d'un groupe à un autre. Moi, il y en a qui l'ont fait, justement, avec le D'ores et Déjà. Et ces formes, de toute façon, qui avaient une base commune au niveau de la réunification et de la, peut-être de bousculer un petit peu la place de chacun au sein d'un collectif, avaient des formes, après, de toute façon, identitaires très différentes. Et du coup, ça a plus créé une émulation et on s'est plus aidé finalement les uns les autres. Et puis tout d'un coup, ça a été reconnu par les institutions, par les lieux. Et donc ça a pu aussi se développer et devenir professionnel et que ces formes, en fait, elles s'épuisent pas. Pour l'instant, en tout cas.
Et Jade Herbulot, qu'est-ce que ça dit aussi de l'acteur quand on dit on redéfinit le statut de l'acteur dans ce théâtre collectif, sur votre façon de le voir, peut-être, je crois que c'est votre expression, Julie Deliquet, vous trouvez que les grandes scènes d'acteurs comme ça, ça fait un peu un braquage sur la pièce. Vous redéfinissez du coup le jeu, on sort de l'intensité des solos justement au théâtre?
Oui, je crois là aussi Julie l'a bien formulé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des acteurs, des créateurs et donc des dramaturges. Oui. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a choisi un roman, puisque donc choisir un roman a supposé de l'adapter sous le format donc de la série. Donc il y a des choses qu'on écrit, il y a la langue, la présence de la langue de Dumas qui est très forte. Et en même temps, comme ça se développe sur plusieurs spectacles, c'est comme un acteur qui jouerait dans une série télé. Donc les acteurs ont la possibilité de développer déjà un personnage sur un temps très long, sur 8h, 10h, mais dans des spectacles isolés. Et en même temps, comme on a, par exemple, pour nous, on est dans des conditions économiques qui sont encore assez précaires. Donc, en réalité...
Le collectif, c'est aussi une contrainte. C'est aussi un théâtre fauché et fougueux qui enfonce les portes.
Il faut réussir à réunir 10 personnes deux semaines d'affilée. C'est très compliqué, notamment quand on n'a pas nécessairement les moyens économiques de le faire. Donc, on a des temps de répétition très, très courts. Par exemple, la saison 4 que vous avez pu voir à la mairie du 4e, on l'a répété 10 jours en tout et pour tout.
Et oui, effectivement, vous avez découpé, rappelons-le, les Trois Mousquetaires de Dumas en 4 saisons jusqu'ici, et chaque saison comporte plusieurs épisodes. Donc on vient voir une saison et on a droit à plusieurs épisodes, 4 épisodes d'une demi-heure environ chacun.
Exactement.
Et il y a des pop-corn.
Et il y a des pop-corn, et il y a du vin rouge, et
il y a beaucoup de choses à manger quand on vient voir les mousquetaires. Ça fait partie de la définition du projet.
On dit boire en mousquetaire, je crois, d'ailleurs. Mais précisément, on parle de la dimension du collectif. Il y a tout de suite une aura politique à cet enjeu et à ce choix. On se retrouve dans une pièce chorale, à nouveau, avec vous, Julie Deliquet, dans votre mise en scène de Vania. Je crois que même le placement choral, c'était une volonté de Tchekhov autour du décor. Mais vous avez pu dire aussi que le collectif, c'est une constellation de solitudes qui doivent faire ensemble. Justement, parlez-nous aussi de toutes ces solitudes qu'il y a dans le collectif.
Bah, ça se retrouve dans les personnages, ça se retrouve dans les acteurs, parce que même un collectif qu'on choisit, ça ne fait que d'individus. Il s'agit pas de trouver, d'ailleurs, il y a une dimension chorale, mais il s'agit pas d'unifier nos personnalités, de rendre une équité totale, d'abord entre la place de chaque personnage ou entre la place de chaque acteur. C'est comment chacun va trouver sa place au niveau d'un groupe. Un groupe, c'est très cruel, hein, parce que du coup, il faut chercher, il faut lutter, il y a des évidences qui se créent. Comme on dit, même le travail collectif, c'est un temps qui a déplacé, hein, les répétitions. C'est très lourd de réunir les gens autant de temps, c'est lourd financièrement, et à la fois il y a une légèreté qui fait que s'il y a deux acteurs qui ont un peu moins la patate un jour, ça se sent pas parce qu'il y en a 10 autres qui l'ont. Donc en même temps, il y a un geste infini qui fait que ça mute en permanence, et c'est fascinant. Et je crois que Tchekhov le fait très bien, c'est-à-dire que cette communauté, elle dure quand même pendant une saison dans Vania. Ça mute parce qu'il y a toujours un personnage qui prend le relais et qui dit on continue, et puis on n'a qu'à boire un coup de plus. Donc il y a quelque chose qui fait qu'ils ne se rendent peut-être pas compte, enfin moi c'est ce que j'ai voulu, ils ne se rendent peut-être pas compte de l'état de désespoir dans lequel ils vivent et qui fait qu'ils sont quand même moteurs et acteurs de leur propre vie puisqu'ils n'arrêtent pas. Et je me suis dit, si par contre en tant qu'acteur vous vous rendez compte que les personnages s'ennuient ou qu'ils subissent, non, à ce moment-là ils diront on arrête, on s'en va. Et je dis, le premier moment où ça se passe, il faut que ce soit à la vente, et du coup c'est irrémédiable, c'est comme une mort, on peut plus retourner en arrière et les personnages vont partir. Mais du coup c'était une manière très symbolique, surtout qu'on a répété exactement le temps de la pièce. On est arrivé fin du printemps et on a créé le premier jour d'automne, et la pièce, c'est exactement, ça se passe sur cette saison-là. C'était une manière de dire, on a cette saison à vivre ensemble, puisqu'on ne se connaît pas, ces acteurs du français et moi. Et là, ces gens-là aussi ont ce moment-là à vivre ensemble. Du coup, il faut que ce soit explosif et que ce soit vivant. Après, du coup, ce qui reste est peut-être un peu morbide, mais...
Et on va retourner dans l'expérience justement de la préparation de ce spectacle avec vous, Julie Deliquet, notamment avec un instrument.
Il me plaît bien. Il me plaît. Il est chaleureux et robuste. Il est terriblement sympathique. On l'aimera. Un peu impulsif. Mais je le freinerai.
J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien entouré, si je choisis des bonnes personnes, si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées, pas tant en trouver, juste écouter et savoir repérer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Si je me rase tous les matins, que je mets un costume et une cravate, j'ai 51 ans, qu'est-ce qui empêche ? Rien.
Pater d'Alain Cavalier avec Vincent Lindon. L'idée de nous raconter cette ascension avec un décloisonnement, avec un commentaire, avec des coulisses en permanence. Il y a eu une caméra qui a été utilisée. On parle beaucoup de la caméra en ce moment au théâtre ou du langage cinématographique au théâtre. Vous l'avez utilisé dans les répétitions. Vous avez demandé aux acteurs de ce film eux-mêmes, chez Deliquet, est-ce que vous pouvez nous raconter cette entreprise-là et puis aussi votre rapport au cinéma, car c'est aussi un spectacle qui est construit, même s'il n'y a pas de filmage concret avec des plans séquences et même une séance de projection.
Eh bien, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à la Comédie Française, ma difficulté, c'était que je voulais que les acteurs soient très poreux avec leurs personnages, mais je les connaissais mal. Donc, comment donner l'illusion qu'ils étaient soit en improvisation, soit que le personnage était très proche d'eux, sans connaître bien les acteurs. Et puis, je voulais aussi donner cette idée qu'on allait travailler collectivement et que j'allais pas arriver de manière trop classique en tant que metteur en scène. Donc, dès le début, je leur ai dit, voilà, vous avez une caméra à disposition, vous allez devoir tourner un film à la pater. Je les ai appelés des paters, c'est pour ça qu'on entend l'extrait. Donc le principe de Pater, c'est qu'il passe de réalisateur Cavalier et Lindon, réalisateur acteur, à Premier ministre, président de la République. Là, c'était l'idée de dire, vous êtes des acteurs, vous choisissez un acteur de la distribution et vous allez passer d'un petit film de 10 minutes, vous vous autofilmez, vous posez la caméra, de vous, acteur, dans vos loges ou chez vous, ils avaient le droit juste à un lieu intime, à passer au personnage, puis à passer dans un troisième temps au mot de Tchekhov. Donc on avait un peu toute l'histoire des répétitions qui était partir d'eux, aller vers l'écriture de plateau ou en tout cas l'appropriation des figures qui défendaient dans la pièce jusqu'au mot de Tchekhov. Et voilà, et je leur ai dit, vous avez un mois pour le faire, on se retrouve le premier jour des répétitions et le premier geste des répétitions, ce sera pas moi, ce sera vous. Ce sera la projection de ces paters et on commencera comme ça. C'était aussi une manière qui s'appelle de dire salut, ben voilà, c'est Dominique Blanc, oui, je t'appelle pour mon pater. Enfin, ça me faisait fantasmer ça. Et moi, que ça m'échappe, cette idée-là.
Dominique Blanc qui fait la mère de...
Qui fait la mère de Vania. Et de voir qu'ils aient dit, voilà, je t'ai choisi parce que je pensais à cette scène. C'était déjà une manière de faire un parallèle avec le travail que je fais avec mes propres acteurs. C'est-à-dire qu'ils pensent que la répétition, elle sortait aussi de la salle de répétition. Qu'ils puissent se poser des questions de eux, ce qu'ils avaient... Qu'ils les faisaient marrer, hein. Je leur disais, faut que ça vous amuse. Et d'ailleurs, c'était très réussi. Ils ont fait des petits films de 10 minutes. C'était extrêmement drôle. Ils ont trouvé des scènes de leur propre réel, de leur propre vie, de leur propre relation qui pouvaient arriver jusqu'à la pièce. Et du coup, c'était aussi une manière de... Vu que moi, je fais souvent des répétitions, ça me faisait rire tout à l'heure, les représentations hors les murs, moi, je fais souvent des répétitions en dehors de la salle de répétition. Mais là, avec des acteurs qui jouent tous les soirs à Richelieu, c'est très compliqué. Du coup, c'était aussi une manière pour moi de voir leur intimité, de voir leur loge, d'avoir accès à un petit peu plus d'eux. Et puis, de passer par le cinéma. Moi, j'ai fait des études de cinéma. Donc, je suis venue aussi à la mise en scène. J'étais comédienne de théâtre, mais je suis venue à la mise en scène aussi par le cinéma. Et même dans la construction, donc le Vania, j'avais envie que le cinéma soit présent et que la partie la plus théâtrale arrive grâce au cinéma. Voilà, après, ça a été un hasard de répétition aussi. Ça, c'est des propositions, notamment la projection. Je me suis dit, qu'est-ce que peuvent faire des gens qui se font chier à la campagne aujourd'hui, à part jouer aux cartes ou boire du thé? Et ben, je me suis dit, tiens, vidéo. un ciné-club. Et on a beaucoup ri parce qu'on n'a pas fait que celui-là. Et...
C'est absolument génial. Avec laissera, les commentaires.
On vous laissera découvrir. Mais justement, puisqu'on parle des acteurs, rappelons-le, outre Dominique Blanc dans le rôle de la mère, d'Ivan, donc le Vania, il y a Laurence Stocker, Ivan, cet oncle Vania, Florence Viala, Elena, la troublante Elena, femme du professeur Hervé Pierre. Et puis, bon, il y a la gaufre, il y a le docteur Astroff et Sonia, la fille du professeur. Du cinéma, il y en a évidemment aussi dans vos Trois Mousquetaires, la série du cinéma ou de la bonne télévision quand elle est plus forte que le cinéma, comme les séries savent l'être à l'occasion aujourd'hui. Mais d'un côté, il semble que avec Tchekhov, avec cette référence à Cavalier, on est dans un cinéma d'auteur. De l'autre côté, on est dans le blockbuster avec vous. Vous avez pu évoquer le fait que vous êtes approprié, Jade Herbulot et Clara Edouin, une pièce lucrative et commerciale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parti pris absolument mercantile?
Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que les Trois Mousquetaires souffrent aussi d'un préjugé qui est celui de la ringardise, il faut bien l'avouer, et que tout le théâtre public nous le renvoie un petit peu dans ses mails, dans ses commentaires, etc. On sait que on s'approprie à la base un roman qui pourrait être rangé au rayon de l'enfance ou qui pourrait paraître ringard, et l'idée avant tout, donc, la chose qui commande, c'est de nous l'approprier aujourd'hui et de l'actualiser aujourd'hui avec des problématiques qui sont contemporaines en fait. À partir de là, les références vont être aussi contemporaines, et les références qui sont les nôtres aujourd'hui, de fait, c'est les séries télévisées, c'est le cinéma commercial comme le cinéma d'auteur. C'est certain.
La borne emploi et métier.
Alors la borne chargée métier, qui est un peu la scène à succès de la saison 4, c'est une scène écrite à partir de nos propres expériences à Pôle emploi.
Mousquetaire à Pôle emploi.
Mais donc en fait l'idée, c'est pas tellement de se dire on va faire un Hollywood théâtral, c'était plutôt de se dire ok, avec quels matériaux on peut reconstruire une fiction aujourd'hui, une fiction théâtrale qui parle à tout le monde, qui puisse parler avec des codes qui soient partagés. Et ces codes partagés, il faut bien le dire, c'est ce mode de récit qui est la série, et c'est cette façon de raconter là des histoires qu'on s'est appropriées.
Et puis Alexandre Dumas aussi, dans son roman,
Jade Herbulot,
utilise vraiment une multiplicité, une variété de registres entre deux paragraphes, deux chapitres, on passe d'une tonalité mélodramatique à un ton tout à coup héroïcomique. Et donc c'est vrai que nous, nos références, on voyait aussi ce roman comme une sorte de western du XVIIe siècle, le western français. Et c'est vrai qu'un de nos référents, on aime beaucoup regarder des films, et notamment des films de Quentin Tarantino. Et c'est vrai que dans l'esprit, dans la construction des ruptures,
les manteaux longs des cowboys.
Oh, voilà, les manteaux longs, puisque les mousquetaires ressemblent plutôt à des cow-boys, effectivement, de western spaghetti. Les gardes du cardinal sont vêtus tels des policiers municipaux. Et c'est vrai que pour nous, on va plutôt chercher du côté de ces références. Et c'est vrai que sans honte, on regarde X-Men, le commencement. C'est-à-dire que cohabitent...
X-Men, la série, bientôt. Donc.
Non, mais ils peuvent cohabiter, effectivement, ce genre de film et un univers à la Jacques Tati que d'autres personnages peuvent endosser. Donc ça va être moins les gardes du cardinal qui sont habillés en policiers, en police française, moins les mousquetaires qui sont des sortes de cow-boys urbains, mais ça va être des personnages à côté, autour, des sortes d'espions énigmatiques qui là sortent d'univers tout à fait différents.
Oui, et puis il y a aussi la référence à Almodovar, par exemple les caméristes de la reine sont, quand on les a imaginés, on s'est dit, ah mais il faut absolument qu'on aille chercher du côté de cet imaginaire-là. Et puis aussi parce que comme on joue en extérieur, il faut qu'on ait des silhouettes aussi extrêmement dessinées et qui pour les spectateurs soient très claires. Et c'est vrai que pour nous, ces référents cinématographiques d'un cinéma populaire ou plus pointu nous semblent des outils vraiment pratiques.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime le théâtre de table, mais aussi les KPDP avec des cabines téléphoniques sur le dos. Vous comprendrez tout en écoutant la suite de cette émission avec Julie Deliquet, Jade Herbulot et Clara Edouin.
Ping Pong. La culture sans limite.
Dans La Mouette de Tchekhov, Arkadina tonne « Je ne suis pas Jupiter, je suis une femme ». Mais alors, foin de Tchekhov un instant, car ce soir, dans Ping Pong, grâce à la complicité de notre programmateur musical et réalisateur Thomas Beau, Jupiter est un homme. Il se nomme exactement Jupiter Bonkodji, figure héroïque de la scène musicale et de la conquête spatiale made in Kinshasa. Jupiter accompagné de son orchestre Okves International, des musiciens qui carburent au propergol, se pique en effet de nous envoyer dans les étoiles avec son nouvel album intitulé Troposphère 13, hommage malicieux au programme aérospatial congolais et à la fameuse et fumeuse et néanmoins authentique fusée Troposphère 5 qui, lancée en 2009 depuis la banlieue quinoise, devait mettre en orbite un rat. Le rat nommé Kavira. Las, la navette vit sa trajectoire déviée et fut réduite en confettis. Mais optimiste et visionnaire, Jupiter relance à sa façon l'exploration interstellaire depuis la RDC en chantant l'injustice et la solidarité au son tradi moderne des guitares katangaises et du synthé futuriste de Damon Albarn, comme ici avec le morceau de son nouvel aéronef, Bengai Yo. C'est à la vitesse 2,7, hein, comme la véritable fusée troposphère. Allô la Terre, ici Troposphère 13, le nouvel album de Jupiter. Le morceau s'intitule Bengayo, paru donc cet album sous le label Zamora. Jupiter sera samedi en live sur France Culture dans Continent Musique à 21h au micro de Mathieu Conquet.
Bonsoir à tous, peuple français. Résumé de la situation, 1625, année chaotique pour le royaume de France. Alors nous, notre mission, c'est quoi? À court terme, fournir au cardinal les preuves de cette conspiration. Et à long terme, empêcher la guerre entre la France et l'Angleterre.
Justement, le carrosse royal vient de s'arrêter devant les marches de l'hôtel de ville.
Ah.
Dans quelques minutes, le roi va faire son entrée. Laurent, le roi va paraître, le roi va faire son apparition.
Oui.
C'est imminent, c'est imminent. La porte de l'hôtel de ville devrait s'ouvrir.
Vive le roi, c'est formidable.
Bonsoir Cécile, bonsoir à tous, peuple français.
La reine est assurément la plus belle femme de France.
Oui, Cécile, il est vrai que sa toilette de chasseresse lui va à merveille. Oh, mais regardez, Cécile, il semble qu'elle porte les ferrets.
On se mit en place et le ballet commença.
J'invite toutes les personnes qui n'ont pas le document nécessaire à retourner s'asseoir dans le public.
Le public.
Attention, c'est addictif. Lorsqu'on sort des Trois Mousquetaires, la série, on dit « Le Trois Mousquetaires ». Jingle à la bouche, hein, à la voix, des vrais véhicules aussi, des comédiens qui sortent de partout et puis des commentaires à la Guy et Simone, entre autres. Les Trois Mousquetaires, la série de Jade Herbulot et Clara Edouin, ça va reprendre depuis le début si vous avez raté les épisodes et les saisons précédentes. Ce sera dans le 13e arrondissement à Paris, en partenariat avec le Théâtre 13, donc des spectacles qui vont se dérouler dans des lieux chaque fois tenu secret jusqu'à la dernière minute, un petit peu comme les rave parties, saison 1, 2, 3 et 4. Ce sera donc entre octobre 2016 et mai 2017. Vous avez donc décidé d'exploser le code de ce que vous appelez la boîte noire. Autant il y a le white cube dans l'art contemporain, et bien il y a la boîte noire au théâtre. Je voudrais que vous me parliez toutes les deux du rôle du public, parce que le public, il est totalement explosé aussi dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que quand on va voir les Trois Mousquetaires, la série, on a un plan qui va nous expliquer où est-ce qu'il va falloir qu'on se pose dans l'espace pour suivre un épisode, et on change à chaque épisode. Donc pourquoi c'était important pour vous, au-delà du décloisonnement que vous faites de la scène, décloisonner aussi le public?
Alors c'était important...
Je le fais en chorus, c'est le chanter.
C'est Clara Edouin qui commence le...
Oui,
D'Artagnan.
Alors,
oh non, d'ailleurs,
on a échangé un coup d'œil avec Jade, on ne savait pas laquelle de nous deux allait commencer. J'y vais, je me lance. En fait, c'était important que, donc effectivement, de décloisonner l'espace théâtral, la scène proprement dite. Mais à partir du moment où on décloisonne un plateau, on décloisonne forcément, on change forcément le rapport au spectateur. C'est-à-dire que jouer non pas devant nos spectateurs, mais autour de, au-dessus, au-dessous, à côté, derrière, implique qu'on choisisse un peu autrement nos dispositifs, et donc les spectateurs ont effectivement un plan, ils arrivent et ils savent qu'ils vont soit se mettre par exemple en bifrontal, ce qu'on appelle un bifrontal au théâtre, c'est-à-dire que la scène, l'action se passe au milieu de deux rangées de spectateurs.
Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans le Vania de Julie Deliquet qui est avec nous?
C'est le même dispositif, on a été hyper heureuses de voir ça, parce que nous on adore ça. Bifrontal, trifrontal, quadrifrontal, cercle, on imagine tout ce qui est possible, voilà, et ça se passe à chaque fois selon des architectures singulières. Et donc c'est ça qui fait aussi que les positions des spectateurs vont changer, c'est-à-dire qu'on s'adapte à des lieux. S'il y a un escalier, s'il y a un balcon, s'il y a un toit, nous on va essayer de jouer partout où c'est possible. Et donc à chaque fois qu'on négocie avec les espaces, les institutions qui nous accueillent, musées, bibliothèques, châteaux, etc., on demande, dans les limites évidemment de la sécurité et de l'état d'urgence, on négocie tout et on place les spectateurs de sorte qu'ils puissent nous voir, en fait, tout simplement. Donc ça fait varier de manière assez complexe les dispositifs. Parfois les gens sont au balcon avec les acteurs, parfois ils sont aussi dans les escaliers quand il y a beaucoup de monde. Des fois ça nous est arrivé de ne plus savoir où mettre les spectateurs, et du coup ils empiètent aussi sur les espaces de jeu. On retrouve des spectateurs aux fenêtres, devant les murs, voilà. Donc tout dépend d'une architecture, tout dépend du lieu qu'on investit.
Oui, parce qu'il y a des architectures différentes. Hein.
Tout à fait.
Mathilde l'a rappelé au début de l'émission, vous avez pu jouer dans des paysages ruraux, un moulin, vous avez joué dans la cour de la mairie du 4e arrondissement récemment, vous avez joué à Versailles par exemple, où il paraît que le 17e siècle n'était pas dans le texte, mais plutôt dans la salle, du côté des spectatrices et des spectateurs, et que du coup il y avait un rapport à ces spectateurs assez singulier. Et,
une boulangerie aussi.
On le disait, vous déplacez les spectateurs, mais vous déplacez aussi le texte d'Alexandre Dumas, et vous évoquiez Gwenaël Morin, avec qui vous avez frayé à un moment, qui fait ce théâtre où il bouscule non seulement les spectateurs, mais il bouscule ses acteurs, il bouscule le texte. Démosthène, orateur de l'Antiquité, a insisté sur l'art du geste, il disait de l'action, c'est aussi ça le projet, de bousculer le texte par le geste, par l'action, Jade Herbulot.
Je crois qu'à un moment donné, on essayait un peu de se formuler ce qu'on essayait essayé de créer comme forme, enfin, quelle forme était en train de se construire, et on a commencé à parler de théâtre d'action. Et effectivement, je crois qu'il y a dans la façon dont on construit nos mises en scène, parce que comme disait Clara, la mise en scène change en fonction des lieux. Donc il y a toujours un facteur.
Elle est contextuelle, en fait.
Elle est toujours contextuelle. Donc il y a une instabilité qui, de toute façon, court en permanence dans le spectacle. Et je crois que nous, la question qu'on se pose, c'est donc avec Clara, notre fonction est de mettre en scène le spectacle, notamment. Donc quand on va faire des repérages avant de jouer. Donc voilà, on appelle le conservatoire du 10e arrondissement à Paris. Est-ce qu'on peut venir tel jour? Très bien. Et quand on se place dans le lieu et on essaye d'imaginer d'abord quels sont les meilleurs points de vue sur les différentes façades qu'on peut voir, quelles fenêtres on pourrait utiliser, les différences de hauteur. Et ensuite, on se dit donc comment mettre en scène le public dans ce lieu. C'est-à-dire c'est à la fois une mise en scène des acteurs et une mise en scène du public, puisque, comme vous le disiez, nos spectacles sont en fait trois petits spectacles d'une demi-heure entre lesquels il y a des pauses, durant lesquelles on peut déguster des cakes et du vin et des pop-corn. Et donc, moment pendant lequel aussi les spectateurs prennent leur chaise et suivent le plan.
S'ils ont la chance d'avoir une chaise, ils se battent pour la chaise.
Il n'y a pas de hiérarchie de prix des places du tout, du coup.
Ça dépend des lieux, parce que quand on travaille avec des municipalités comme la mairie du 4e arrondissement ou la mairie du 18e, l'entrée est libre. Donc gratuite. Et en revanche, quand on travaille avec le théâtre 13 ou quand on a pu jouer dans le sud, dans les jardins de l'évêché à Uzès, l'entrée était payante. Donc
là,
effectivement,
les places vont être très chères, si je puis dire, parce que donc il faut réserver sur le site du théâtre 13 pour s'inscrire et espérer avoir son fauteuil comme à la cour de Louis XIV pour assister aux Trois Mousquetaires.
Oui, il faut effectivement impérativement cette fois réserver sur le site du théâtre 13 parce que le lieu est tenu secret. Donc si on veut avoir la petite lettre du théâtre qui nous donne un point de rendez-vous, il faut payer sa place en avance parce que le lieu où on ira, il n'y aura pas de billetterie sur place. On ne pourra pas faire entrer des gens à la dernière minute. Donc effectivement, c'est déjà lundi prochain, c'est lundi 10. Donc, effectivement, il faut réserver en avance pour cette fois.
Clara Edouin et Jade Herbulot, Martin Paisler de Bousculer le texte. Vous avez aussi dit que vous vouliez vieillir avec ce roman, vieillir avec cette œuvre, faire une expérience finalement de ce qu'elle va vous inspirer au long cours. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a de nombreux ajouts. J'ai mentionné une cabine téléphonique sur le dos parce que c'est vrai que c'est le costume de Porthos.
Du valet de Porthos, mousqueton.
Du valet de Porthos qui est totalement égaré. Donc qu'est-ce que vous vous permettez dans la bousculade, dans l'ajout au texte de Dumas?
Eh bien, il y a différents textes qui viennent se superposer à la langue de Dumas. Ça peut être des choses qu'on écrit nous-mêmes avec Jade, mais aussi avec Romain de Bec-de-Lièvre qui accompagne cette aventure.
Et qui travaille pour les Nouvelles Vagues ici à France Culture.
Effectivement, il travaille ici aux Nouvelles Vagues et donc on écrit vraiment tous les trois. Il y a des scènes entières qu'on écrit ensemble et qui s'ajoutent, qui se mêlent, qui se tissent au roman. Donc par exemple cette scène que vous évoquiez de la saison 4 où Porthos paranoïaque est enfermé dans son auberge et décide de faire le siège de sa chambre et de ne plus laisser entrer personne. Donc il va se saisir de toutes les de toute la nourriture, de tout le vin de l'auberge et puis il s'enferme et il refuse de sortir. Toute cette scène là qui est une scène de paranoïa où effectivement Porthos évoque sa peur d'être en fait enfermé dans un roman, ce qui est effectivement sa situation. Celle-là, c'est nous qui l'avons écrite. Et du coup, il y a aussi un peu un point de vue métalittéraire qu'on amène, nous, tout comme on écrit ensemble, tous les trois, des émissions littéraires qu'on appelle les bilans Dumas. Et ces émissions littéraires sont un peu comme des émissions de radio où des critiques, des universitaires viennent tout d'un coup apporter leur point de vue sur le roman. Et nous, on fait tout pour que ce point de vue soit un point de vue réel possible. Donc, on se met vraiment à critiquer le roman et à critiquer notre adaptation à ce moment-là. Et c'est vraiment une sortie de route à ce moment-là par rapport au récit.
Julie Deliquet, à la manière de Jade Herbulot et Clara Edouin qui ne se laissent pas enfermer dans le roman et qui invitent donc les spectateurs à faire de même, vous, pour ne pas vous laisser enfermer dans cette boîte noire du théâtre que vous acceptez pourtant d'arpenter et dans laquelle vous invitez les spectatrices, les spectateurs, en l'occurrence avec Vania, d'après Oncle Vania au Vieux Colombier à Paris en ce moment, vous travaillez sur la présence, sur l'instant, jusqu'au dernier moment, jusque chaque soir, sur le plateau, en public, il y a ce travail sur la présence dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une présence physique et une présence temporelle au texte.
Oui, c'est ça, c'est l'hyper direct en fait, de dire que puisqu'on défend tous là un art vivant, d'essayer de pousser cette idée du vivant le plus loin possible, et puisqu'on a la chance de jouer chaque soir et que chaque jour est différent, et bah du coup d'assumer ça à l'intérieur même du processus. Alors ça passe aussi par quand même la boîte noire à l'exploser parce que c'est un bifrontal là aussi, comme vous l'avez dit, et les spectateurs passent sur le plateau, une partie en tout cas des spectateurs. Donc déjà 2016 envahit Tchekhov avant même que ça commence. Il y a une horloge sur le plateau qui donne la temporalité de la représentation. On commence avec elle, il y a la fiction qui s'immisce et du coup les heures deviennent fictives à l'intérieur du spectacle, puis à la fin on revient au temps de la représentation comme si toute cette saison pouvait se passer, oui, le temps d'un spectacle. En fait, de mêler toujours, d'essayer de, même si on rentre dans la fiction, que le rapport au réel, à la réalité, à 2016 ne soit jamais trop loin et que le théâtre finalement ne soit pas plus grand que nous. Et de se dire que les acteurs sont tout aussi mortels que le premier rang qui est en face. D'ailleurs, si quelqu'un crie, tout le monde s'arrête. C'est le pouvoir du théâtre aujourd'hui. Je veux dire, un film, il a été fait un an avant, il est en salle, il se passe quelque chose en salle où l'actualité, ça ne bousculera jamais ce qu'il y a sur l'écran. On a quand même ce pouvoir-là qui est incroyable et qui fait que je crois qu'on est tous un peu en quête d'assumer cet art du vivant et donc de le mettre en scène. Alors, comme vous le dites, hein, en allant vers des lieux qu'on rend vivants d'une autre façon, et donc au sein même d'un théâtre, évidemment, cette question, elle se pose dès le départ. Et donc, moi, je suis là chaque soir. Il y a des parties qui sont improvisées. Le spectacle bouge. Alors, c'est le texte, hein, quand même. Mais du coup, même avec un texte, il faut se poser la question de l'hyper-direct. Et puisque j'assume un travail très collectif, ils sont tous très dépendants les uns des autres. Moi aussi, j'assiste à la représentation. On en reparle le lendemain. Tchekhov est parmi nous, hein. c'est aussi un des membres du collectif, mais lui il a trouvé plus vite que nous. Il était là dès le début, mais du coup c'est cette idée de faire ensemble et que le public, même si on l'intègre pas, le quatrième mur il est pas brisé, mais par contre ils en ont hyper conscience. Il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, il disait, si, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un téléphone qui sonne, parce que ils sont tellement pour eux, ouverts à tout ce qui peut se passer, ils ont des yeux partout par rapport aux partenaires, que du coup, le public est un partenaire aussi. Et c'est pour ça que je défends un geste théâtral et pas cinématographique, parce que ça parle fort, on n'a pas besoin d'une caméra pour venir capter ce qui se passe autour de la table. Je leur disais ça, ça peut paraître au début naturaliste ou cinématographique, je leur ai dit, surtout eux, ils avaient déjà fait du cinéma par rapport à moi en tant qu'acteur, et je leur ai dit, mais c'est très différent.
Laurence Tocquin ou Dominique Blanc, entre autres.
Bien sûr. Je leur ai dit, c'est un geste très théâtral où le spectateur doit se sentir voyeur et à une place de spectateur où finalement il est dedans et il n'est pas extérieur. Mais on n'a pas besoin de le regarder pour qu'il s'en rende compte. C'est juste que ce collectif-là, il dépasse le cadre des acteurs. C'est aussi un collectif de ces gens-là, ce jour-là, qu'on soit mardi, mercredi. Du coup, ça bouge. Alors, il faut qu'on bouge un petit peu avec eux. Bien sûr que le spectacle et l'histoire, le récit restent le même. La façon de le faire, même si c'est un film, pas tout à fait. Donc, j'en accepte aussi les maladresses. Et ça me plaît.
Justement, par rapport à cet hyper direct et à ce théâtre du présent, du brûlant, vous étiez le soir du 13 novembre à la représentation de Ça ira fin de Louis de Joël Pommerat. Vous avez reçu au moment du deuxième acte un texto pour vous dire ce qui était en train de se passer, de l'horreur terroriste à l'extérieur. Vous dites, ce soir-là, ça m'a rassurée sur le sens même de notre métier. Qu'est-ce que ce théâtre, celui de Pommerat, le vôtre aujourd'hui, apporte dans la lecture brûlante du monde contemporain? Je crois que Eric Ruff, qui est administrateur de la Comédie Française, le soulignait aussi pour les damnés d'Ivo Van Hove. Il a l'impression que ce théâtre-là, c'est la juste mesure de recul pour pouvoir dire quelque chose d'une actualité.
Ce qui était incroyable ce soir-là, c'est que Joël Pommerat nous place à l'intérieur du public comme un membre de l'Assemblée nationale, de la constitution de l'Assemblée nationale. Donc déjà, on côtoie les acteurs. Moi, j'étais près d'une allée, du coup, j'étais proche des acteurs. Alors, on mêle réalité et fiction, mais on est quand même bercé par la fiction. On est quand même dans la première république du monde qui est en train de se mettre en place devant nos yeux. C'est ce qu'ils nous racontent. Il y a une intrusion dans la salle permanente avec, ça me faisait penser d'ailleurs en entendant le roi, avec Louis XVI qui arrive comme dans un meeting d'aujourd'hui. Donc on joue avec ce code-là et tout d'un coup, effectivement, on a ces textos. Et on ne sait pas encore le Bataclan, on sait les terrasses, etc. On sait qu'il y a une prise d'otage. Et tout d'un coup, on parle de la montée des actes de terreur à Paris, dans le spectacle. Et de se poser la question, est-ce qu'on fait une révolution sans la révolution? Ça va être les propos robespierristes qui vont suivre. Mais du coup, l'acte de terreur se pose. Ça débarque dans la salle avec l'armée, mais je veux dire, c'est le spectacle. Mais à ce moment-là, la salle, elle réagit plus tout à fait pareil. Parce que du coup, là où on était dans nos sièges à prendre un plaisir immense de nous raconter quelle est l'histoire du monde contemporain, quelles sont ses origines, tout d'un coup, on se le prend en pleine face et on n'est plus du tout assis de la même façon. Rien d'en parler, j'ai des frissons. Et ça a été fou parce que à un moment donné, même ils ont questionné là la chute du clergé, de la religion. Ils ont dit, ça va être l'ère de Mahomet. Vous imaginez ce soir-là, comment ça réagissait dans la salle. Ça nous a tous mis à un endroit où on s'est dit, et à la fois j'étais fière d'être là ce jour-là parce que ça parlait tellement du monde d'aujourd'hui à travers en plus un spectacle qui était très 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 bien pensé historiquement et qui était magnifiquement porté par les acteurs. Et j'ai trouvé que là, du coup, la porosité réelle-fiction, on se l'était pris vraiment en pleine face.
Alors là, on va partir vers un autre événement historique et une autre chute qui a marqué notre belle aujourd'hui. Et c'était déjà une mise en scène de Jade Herbulot et Clara Edouin.
Il fallait trouver la force de survivre au milieu des ruines, de surnager dans le chaos, de retrouver les disparus. Un rideau de fer est descendu à travers le continent. Et c'est au rythme de 3000 par jour que des Allemands de l'Est se présentent dans des centres d'accueil de Berlin-Ouest. Personne ne sait comment finira cette histoire. Ni quand elle finira.
Qui l'a aidé ?
Je m'appelle Peter Steiner. Et ce soir, je passe à l'Ouest.
Ich bin ein Berliner.
Ich will was haben, was nicht will ist. Ich will was tun, was nicht in der Zeit versteht.
Petit extrait de Berliner Mauer Vestige, les vestiges du mur de Berlin, signé par le Birgit Ensemble. Il y a comme un peu d'ironie peut-être dans le nom de cette compagnie, qui sait. En tout cas, c'était Jade Herbulot et pas Clara Edouin, ou à moins qu'elle ait changé d'identité comme quelques transfuges de l'Est. C'était Julie Bertin associée à Jade Herbulot pour cette mise en scène. On était déjà dans un spectacle où chacun des spectateurs pouvait voir des choses différentes avec cette histoire de l'érection du mur de Berlin qui tombe sur la scène, qui sépare les spectatrices, les spectateurs en deux camps, si je puis dire, et qui vont chacun découvrir, donc selon qu'ils sont à l'Est ou à l'Ouest, un autre spectacle, un spectacle différent, jusqu'à se retrouver à l'issue de ce Berliner Mauer Vestige. Justement, il s'agit de, à nouveau, ou déjà plutôt, Jade Herbulot, du devenir figurant des spectateurs et de les transformer en habitants, comme vous les transformez en habitants de chacun des lieux que vous investissez avec la série Les Trois Mousquetaires.
En tout cas, je crois que c'est un des points communs effectivement entre les deux projets, qui partagent des acteurs, qui partagent aussi des problématiques similaires entre le rapport entre l'histoire et le théâtre, ou le frottement entre réel et fiction. Et effectivement, pour le coup, c'est quelque chose qui peut être plus net dans Les Trois Mousquetaires, parce qu'il y a eu une représentation notamment à Bercy Village, où effectivement
là où c'est lucratif et commercial.
Exactement, là où c'est dans Berliner,
c'était en période de Noël.
C'était en plein été.
En pleine canicule.
Là où dans Berliner Mauer, effectivement, on est dans une boîte noire, donc c'est un bifrontal, encore une fois, comme dans Vania ou comme dans des dispositifs qu'on peut utiliser. Effectivement, le mur vient séparer les spectateurs qui se retrouvent donc soit à Berlin-Est, soit à Berlin-Ouest, et donc ne voient pas la même chose en fonction du côté où ils sont assis. Ils ont donc des choses à se raconter après le spectacle. Il s'agit là de, pour nous avec Julie, de créer un dispositif suffisamment immersif pour que l'émotion des spectateurs soit liée à ce récit qui se construit à partir de matériaux historiques. Et là, en l'occurrence, pour les mousquetaires, effectivement, là encore, l'histoire de France a une part importante dans le roman de Dumas. Ce sont des romans historiques. Et à Bercy Village, effectivement, pour le coup, ce qui est plus difficile, c'est comment faire de la Bercy Village un lieu, enfin, en faire un dispositif immersif.
C'est une artère piétonne et commerçante au centre de Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent
donc,
pas.
Donc, il y avait un épisode qui était notamment donc dans cette rue, puis un épisode à côté de l'entrée de l'UGC Ciné-Cité de Bercy.
Un multiplex.
Exactement. Donc, toute la question, c'était Que se passe-t-il? Parce que donc il y a des gens qui viennent pour le spectacle, mais en l'occurrence il y a aussi des gens qui passent pour aller à leur séance de cinéma. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, je crois que c'était dans le jardin à côté où il y a eu le troisième épisode. C'était la saison 2 qu'on avait joué à Bercy Village, où là il y a des gens qui sont apparus en fait dans le champ.
Oui, tout à fait. En fait, ce jour-là, donc cet après-midi très 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 chaud du mois de juillet, on était aussi en pleine effervescence de Pokémon. Donc il y avait énormément de spectateurs qui étaient dans les jardins de Bercy plutôt pour faire la chasse aux Pokémon que pour faire la chasse à D'Artagnan. Et donc il fallait jouer. J'allais dire lutter, mais en fait, c'est ça. Mais c'est pas tellement, il s'agit pas tellement de lutter, mais de comment on compose tout d'un coup, comment on fait avec, comment on joue avec cette réalité-là et ce monde-là, même si c'est deux mondes un peu culturels qui se côtoient, et tant mieux. Donc on était dans les jardins, on avait énormément de jeunes gens qui étaient là avec leurs portables, et puis on jouait quand même, et puis les gens s'arrêtaient, restaient, avaient les yeux rivés sur cette espèce de pont où on jouait le dernier épisode, et tout d'un coup une horde de jeunes hommes en survêtement plutôt métissé fait son apparition sur le fond, j'allais dire non pas du plateau mais le fond du jardin, donc derrière les acteurs. Et je crois que tous les spectateurs se sont demandé à ce moment-là, mais est-ce que ça fait partie du spectacle ou pas? Et effectivement, ça ne faisait pas partie du spectacle. C'était les accidents qui peuvent arriver dans cette idée de frottement du réel et de la fiction. Et puis, ils sont arrivés, ils ont juste regardé ce qui se passait pendant quelques instants. Le temps s'est suspendu pour tout le monde et puis ils sont repartis.
Tandis qu'au premier plan, il y avait le duc de Buckingham et
la reine
Anne d'Autriche qui avait rendez-vous.
Ping-pong. C'est déjà fini. C'est un cliffhanger.
Merci beaucoup à toutes trois, donc nos trois mousquetaires. J'y reviens. Les trois mousquetaires, la série, donc signée Jade Herbulot et Clara Edouin, eh bien reprend toutes les quatre saisons. Premier rendez-vous secret pour la saison 1. C'est donc à partir de lundi, réservation obligatoire sur le site du Théâtre 13. Ça aura lieu dans le 13e arrondissement de Paris. Quant à Vania, d'après Oncle Vania, c'est au Théâtre du Vieux Colombier, dans votre mise en scène, Julie Deliquet, et jusqu'au 6 novembre.
Le ping-pong est une petite troupe radiophonique qui se décarcasse en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssat Wendoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Lila Bozès. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Jacques Hubert et Élise Leu.
Demain, nous jouerons au ping-pong de manière exceptionnelle au Grand Palais. Mais attention, à partir de 15h30, c'est en public, accès libre. Venez nombreux nous écouter, retrouver Tintin, Milou, la Castafiore.
Ah oui, viendez, comme on dit au Groland.